Je sais pas. Alors, juste là, j'ai commencé à faire de la pub. Voilà. Gérard m'avait demandé de participer à ce culte et de présenter un livre que j'avais écrit sur l'écoute de Dieu. Donc, je l'ai amené, j'ai obéi. Et voilà, donc je vous dis, ils sont en vente à la sortie, ainsi qu'un CD de louange de notre église qui a été fait il y a quelques mois. Voilà, donc j'ai fini pour la pub, c'est bon, c'est 10 euros pour un exemplaire, 20 euros pour deux exemplaires. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, l'église veut dire quelque chose pour moi, bon, lui, c'était pas là, mais elle est là de cœur. Et parce que je ne sais pas qui était là il y a très, 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 très longtemps, mais moi, j'étais un jour au culte au Jardin de la Fontaine, là-bas. Et alors, c'était la première fois que j'allais prêcher dans une église charismatique. Moi, je connaissais rien à rien. Et je dis, voilà, ces gens-là, ils entendent Dieu leur parler, c'est extraordinaire, quoi. Comment ils font? Moi, ça me surprenait, quoi. Et alors, il y a eu ce temps, un temps de louange. Et puis, à un moment donné, après le temps de louange, la salle se vide. J'ai dit, tiens, c'est curieux. Et je vais voir, c'était Jean-Louis qui était là. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est le moment où on va aux toilettes. Parce que les WC étaient dans la cour. Et tout le monde allait aux toilettes avant le message. Voilà, c'était les débuts héroïques de l'Église. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Ouais, et là, voilà, Hélène, et puis ouais, toi aussi. Et d'autres, ouais, c'est ça. C'était extraordinaire. Et vous avez toujours été pour nous un sujet d'encouragement. Parce qu'à Clermont, on a commencé le travail et on a galéré. Mais vous étiez là. Moi, je me rappelle les conventions et tout ça. C'est pas pour faire les anciens combattants, c'est pour dire comment Dieu est fidèle. Et que je vois, quand je vois là mon Gérard que j'ai connu à 14 ans, 15 ans, il y a Joël qui est là. Alors, elle s'était pas dit, lève-toi, Joël. Elle est timide, mais elle est très timide. Voilà. Alors, on était des copains d'enfance. Et on est encore là et Dieu a été là en nous jusqu'à aujourd'hui. Moi, je bénis le Seigneur pour ça. C'est tellement important. Alors, maintenant, j'en viens aux choses plus sérieuses. Écoute, Dieu veut te parler. Alors, souvent, quand vous lisez les témoignages des gens, vous dites, oh là là, Dieu, il leur dit des choses extraordinaires. Et moi, il ne me parle pas. Et je pense qu'on a tellement compliqué les choses. On complique comment Dieu va nous parler. Et Dieu veut nous parler dans la vie de tous les jours. Par la vie de tous les jours. Alors, je ne vais pas vous faire l'étude de ce qu'il y a dans mon livre. Si vous voulez le lire, ben, vous pouvez vous le procurer. Mais ce qui est important, c'est que dans l'Écriture, au Deutéronome 6, verset 4, il est dit, c'est le texte fondateur pour Israël, « Écoute, Israël, ton Dieu est le seul éternel. Écoute. » Et si Dieu nous demande d'écouter, c'est bien qu'il a quelque chose à nous dire. Il veut nous parler de temps en temps. Pas tous les jours, mais parfois, il nous parle. Et quand il nous parle, c'est toujours pour nous encourager, nous édifier, parfois nous reprendre, parfois nous corriger. Mais il va nous parler pour que nous puissions vraiment répondre aux besoins des hommes et des femmes et des jeunes qui sont là dans notre génération. Les temps changent, les temps bougent énormément et on a besoin d'une réponse adaptée de Dieu, même si je crois à la conformité de l'Écriture et que la Bible n'a pas changé. Mais nous avons besoin d'entendre Dieu d'une certaine manière pour pouvoir véhiculer le message de Dieu là où sont nos jeunes et nos plus âgés, parce que toutes les générations sont touchées. Et y a un texte que j'aime beaucoup dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Voilà ce qui est dit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et on a là une description de ce qu'était la vie spirituelle de l'époque. Un sacrificateur, donc un homme de Dieu, un pro, on dirait. Un pro qui devrait normalement être quand même un peu éveillé aux choses d'en haut. Et ben, il n'avait pas l'air tellement éveillé, lui. Vous savez, il y avait une femme qui était venue pleurer dans le temple parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous connaissez l'histoire d'Elkana qui est venue et qui a prié dans un coin près du poteau du temple. Et elle a prié et le texte nous dit qu'elle a répandu son âme et qu'elle balbutiait des lèvres. Et le sacrificateur, quand il l'a vu, il a dit, va cuver ton vin. C'est le meilleur moyen pour perdre un membre d'église, c'est de lui dire ça. Dites ça à quelqu'un, que vous voyez dans la souffrance, mais quand tu auras moins bu, tu reviendras. Elle est revenue. Il ne l'a pas perdue. Mais elle lui a dit, sacrificateur, je ne suis pas une femme qui a bu, je souffre. Et Élie, le texte nous dit qu'il avait les yeux troubles. Les yeux troubles, on pense que c'était la cataracte. À l'heure actuelle, on dirait ça aujourd'hui. Vous voyez plus bien, il y a un voile, une opacité qui se fait. Et c'était une opacité physique, mais elle dénote quelque chose de spirituel. L'opacité qu'on peut avoir. Et moi, je peux vous dire, je sais, hein, je bosse comme pasteur depuis des lustres, et le nombre de fois où des fois mes yeux ont été aveuglés. Aveuglés par, des fois, déjà la fatigue, des fois la lassitude, des fois la routine. C'est pas toujours facile quand les gens viennent vous voir, et t'es oui, tu prieras pour nous, hein, oui, bien sûr, quoi. Et puis quand tu rentres chez toi, tu ne le fais pas parce que t'es submergé. Ça vous est jamais arrivé? Et vous, les chrétiens, chacun d'entre nous, on est submergé par les demandes, par les appels, on se dit comment je vais faire? Et si je n'ai pas ce temps de rencontre avec Dieu, d'adoration, c'est à ça que sert l'adoration. Si je n'ai pas ce temps-là, alors ma vision est bouchée, mes projets ne prennent pas corps et Dieu me demande de l'écouter. Mes yeux sont troubles et je n'ai pas envie de passer à côté du besoin de celui ou celle qui est à côté de moi. Quand on vient au culte, souvent, bien sûr, en premier, on vient pour Dieu. Hein. On est tous des saints. Hein. Je viens pour le Seigneur. Mais on vient aussi pour nous. Et on vient aussi des fois pour que Dieu nous parle. Et si on pouvait s'en changer la stratégie en disant, Seigneur, est-ce que tu pourrais parler à travers moi? Est-ce que tu pourrais m'utiliser là où je suis, à ma place, pouvoir prier avec une personne, aider une personne, recevoir une parole de Dieu, peut-être prier pour un malade, je ne sais pas comment, chacun selon ce qu'on ressort. Je viens pour l'autre. Seigneur, quel est son besoin? Pas toujours quel est mon besoin, quel est son besoin? Et vous allez être étonné, mais Dieu va vous le révéler. Vous serez assis à côté de la bonne personne qui aura peut-être un besoin précis. Je ne vais pas détailler parce que je n'ai que 2 heures devant moi, donc je vais être quand même sérieux. Mais la parole de Dieu, elle est importante. Et je ne parle pas du texte, le bouquin. Je parle de la parole qui est contenue, qui est la parole de Dieu. La parole, le mot hébreu, c'est dabar. Dabar, c'est événement. C'est la même traduction. Un événement. Une parole de Dieu, c'est un événement. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger en moi, qui doit bouger en chacun d'entre nous. Je pense que l'apôtre Paul aurait travaillé chez Michelin s'il était né à l'époque actuelle. Parce que dans 1 Corinthiens 12, verset 1, écoutez ça, pour ce qui concerne les pneumatikos, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 14, verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi au pneumatikos, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 12, de même vous, puisque vous aspirez au pneumatikos, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Terme grec, les spirituels, les dons spirituels, les pneumatikos, les pneumatiques. Et il faut, alors chez vous, vous dites pas les pneus, vous dites les pneus. Hein. Ah, ça signifie, ah, les pneus, hein. Les pneus, eh bien, il faut que les pneus soient gonflés. Hein. Voilà, avant d'aller chercher le ping, hein. Les pneus. Comment sont les pneus de mon cœur? Est-ce que je suis gonflé vraiment à l'hélium qui va m'entraîner vers les choses d'en haut? Ou est-ce que je suis simplement au ras des pâquerettes dans ma vie spirituelle? Oh, je suis sauvé, hein. Je ne mets pas en cause tout ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi. Parce que je sais aussi ce que c'est qu'être au ras des pâquerettes. Je sais ce que c'est. Mais je sais aussi quand j'ai besoin de recevoir du Seigneur un coup de pompe à vélo pour repartir, pour adhérer. On dit souvent que le pneu, c'est ce qui nous tient en sécurité. C'est ce qui est le plus proche de la route entre la voiture et nous. Et il faut qu'il soit en très bon état. Donc nos pneumatikos, il faut qu'ils soient en bon état pour que Dieu puisse nous utiliser. Comment Dieu nous parle? Il nous parle très souvent. C'est rare qu'il nous parle comme dans les 10 commandements. Hein. Ainsi parle l'Éternel. J'ai jamais entendu, moi, la voix de Dieu. Il y en a qui l'ont entendu. Hein. Je ne mets pas en cause ceux qui ont entendu. Mais en règle générale, c'est la petite voix à l'intérieur. cette petite voix de Dieu. Je me souviens quand les gosses étaient petits, on avait un endroit de vacances où on voulait aller et il fallait faire 400 km et il y avait un camping qui nous plaisait et on s'était arrêté, on revenait d'Angleterre, enfin je vous passe les détails, mais on était dans le nord de la France et on voulait aller en Vendée. Alors la Vendée, je sais bien que pour vous c'est le nord, mais pour nous c'était déjà le sud quand on habitait Lille. Alors quand on ne savait pas, et Lucette me dit, mais il n'y a pas de place dans le camping, on n'a rien réservé, c'était le mois de juillet, on ne peut pas aller comme ça. Et j'ai dit, on va voir. Et je mets la clé dans le Neyman, et au moment où je mets la clé dans le Neyman, la petite voix intérieure me dit, je vous ai préparé une place. Mais je connais ce texte, hein ? Vous connaissez, hein, dans l'Évangile ? Je vous ai préparé une place. Et j'ai dit à Lucette, le Seigneur nous a préparé une place au camping. Ah, t'es sûr ? Ah, c'est sûr. Alors on est parti avec les trois gamins, on s'est mis en route, on a fait nos 400 km ou 500, et on arrive devant le camping, on était heureux, puisque le Seigneur avait préparé une place. Et quand on arrive devant le camping, il y avait un grand panneau complet. Oh. Ah, j'avais ma honte. Hein. Alors elle me dit, mais t'es sûr que t'as bien entendu ça ? Si, je suis sûr que j'ai entendu ça. Alors, ben, je suis allé au guichet. Bonjour monsieur, voilà, je viens voir avec ma famille, si on peut s'installer, on avait une caravane pliante, toile, on pouvait se mettre un peu n'importe où. Vous n'avez pas lu le panneau ? Ben si monsieur, mais j'ai essayé quand même, ben, c'est complet. Et là j'étais triste, j'ai dit, t'as dû mal entendre, t'as dû te fabriquer ta réponse que t'avais envie d'entendre. Et au moins, j'ai dit, oh, bon, merci, au revoir, monsieur. Et au moment où je sors, un gamin rentre en disant, monsieur, ma mère m'envoie parce qu'on va quitter le camping une semaine à l'avance. Alors là, ouf, la pression est tombée. C'est pas le fait que j'avais bien entendu, mais c'est ça, Dieu. Il s'occupe des petites choses. Bien sûr, c'est pas très important qu'un pasteur prenne des vacances. Ben, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est important. Je disais, je ne le dis plus, vous allez comprendre pourquoi. Comment Dieu nous conduit par les circonstances et nous apprend par les circonstances. Moi, je disais toujours, demain, je pars en vacances, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'était ma formule. Et un chrétien de l'Église m'a dit, si Dieu le veut. Ça m'a mis une claque. Je dis, pourquoi, de quoi il se mêle, lui ? Bien sûr qu'il le veut que je parte en vacances. Et la veille de partir en vacances, ce jour-là, les quelques jours qui ont suivi cette apostrophe de cet homme, mon gamin Samuel se plaint de maux de ventre. Mal au ventre, ouais. Alors tout de suite, l'épouse à la maman, on ne peut pas partir comme ça, quoi. Comment ? On ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas l'emmener avec ce mal de ventre, il faut d'abord qu'on aille consulter un médecin, quoi. Ah, bon, on verra, on va partir d'abord, et puis ensuite on verra. On part en vacances. Et puis les douleurs s'accentuaient. Elle m'a dit, je ne partirai pas tant qu'on n'a pas été voir le médecin. Alors j'ai dit, bah, si c'est que ça, on va y aller. Et j'ai téléphoné, j'habitais pas loin de la clinique à côté de chez nous. J'ai tout de suite été à la clinique, aux urgences, j'ai dit, voilà, mon gamin, il a mal au ventre, on doit partir demain en vacances. Alors allez consulter le chirurgien, le médecin du service. Et alors, il ausculte, il touche le gamin. Oh ! Il dit, monsieur, vous ne partirez pas en vacances. Oh non, pas ça. Non, appendicite. Je vais lui mettre la glace ce soir, il va rester là. Et demain matin, il sera opéré. Et je suis rentré à la maison, blême. Et à l'époque, l'appendicite, ce n'était pas sous célioscopie en 2 jours. Hein. 10 jours ! 10 jours restés à la maison. Sacro-sainte vacances, si Dieu le veut. Et Dieu est devenu par ses circonstances court-circuitées. Et c'est très important d'écouter les circonstances dans nos vies. Parce que les circonstances sont souveraines, quelque part. Bien sûr, je sais que les très spirituels vont dire, il faut les renverser au nom de Jésus. J'aurais pu dire, au nom de Jésus, appendicite, va-t'en, je pars en vacances. C'était pas ça. Il faut savoir écouter. Et il faut savoir se soumettre. Souvent, nous, les charismatiques, on est un peu orgueilleux. Un peu beaucoup. Et on dit, moi, je domine tout. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Les autres, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Mon œil, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu penses le posséder, mais tu ne te laisses pas remplir. Tu veux manipuler Dieu à travers tes façons de voir les choses, c'est pas vrai? Mais on est bien comme ça, mes amis. Et moi, je voulais nous mettre en garde constamment par rapport à ça. On ne fait pas entrer Dieu dans une boîte. Et si Dieu, par les circonstances, veut me conduire autrement, il le fait. Et moi, dans la soumission, je vais apprendre quelque chose. C'est une chose très importante. Je vous encourage aussi, pour écouter Dieu, à lire la Bible. Vous me direz, oui, mais ça, on le sait, mon gars. Bien sûr qu'il faut lire la Bible, quoi. Mais il y a lire la Bible et lire la Bible. Un jour, j'allais faire la visite médicale j'étais aumônier des hôpitaux à l'époque, et j'allais faire la visite médicale du travail. Et puis, j'avais vécu une opération, et je ne voulais pas en parler au médecin du travail, parce que je n'avais pas déclaré l'opération. J'avais pris un congé sans rien dire à l'employeur. Je m'étais bidouillé le truc, bazar. Je dis, ça ne fait rien, je ne dirai rien. S'il me pose la question, je lui mentirai. Oh, un pasteur qui ment. Quelle horreur. Affreux. Alors, c'était le matin avant d'aller à la consulte. Je tombe sur ce texte. C'était ma lecture du jour. Vous savez, il faut lire la Bible de manière cursive. Il ne faut pas la lire comme ça. Vous avez des gens, ça, ils lisent un texte. Ils font comme ça, quoi. Hein, ils disent, ah, ça y est, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je lis la Bible tous les jours, mes quelques versets. Et ce jour-là, le verset du jour, c'était que chacun dise la vérité à son prochain. Oh. Ah. Et là, j'ai dû capituler. Dieu m'avait parlé. C'était clair. Et là, j'ai dit, Seigneur, bon, d'accord, je capitule. Et j'ai fait une prière à Dieu. Dieu est tellement bon, quoi. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne me pose aucune question sur cette opération. Et j'ai eu ma visite médicale. Il ne m'a rien demandé. Et j'étais content. Mais j'étais heureux surtout de m'être soumis au Seigneur et dire, oui, j'avais dit à Dieu, s'il me pose la question, je répondrai selon la vérité. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il ne faut pas mentir, c'est un péché. Hein, faut pas. Mais des fois, vous savez, dans les boulots, dans les situations, vous n'êtes pas dans ces situations-là. Dites que le patron n'est pas là. C'est la phrase clé, hein. Et on est là, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. En tant que chrétien, j'ai envie d'être honnête, etc. Mais tu comprends, l'Écriture, moi, m'avait parlé ce jour-là. Et quand l'Écriture nous parle, il faut se soumettre à l'Écriture comme il faut se soumettre aux circonstances. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite, on n'y prend pas garde. Parce qu'on a envie que Dieu aille toujours dans l'autre sens. On a envie que Dieu réponde toujours à nos prières selon nos inclinations. Et quand vous êtes pasteur dans une église, quand vous avez des soucis, et il y en a toujours, de toute façon, eh bien, vous faites votre mieux, et vous priez, et vous cherchez la pensée de Dieu, et vous vous réunissez avec les responsables, et vous cherchez la pensée de Dieu. Mais vous avez toujours envie que Dieu vous dise les choses qu'il a envie de vous dire. Et un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a repris sur une personne que je n'avais pas visitée depuis des mois. Moi, je suis un très mauvais pasteur. Et ça fait des mois que je n'avais pas vu cette personne. Je n'étais pas allé la voir. Et puis, comme elle était casse-pied, je n'en avais pas rajouté du tout. Oh, vous savez comment c'est les églises, hein. Il y a de tout. Hein. Alors, ce jour-là, j'ai dit, bon, Seigneur, tu me mets la pression sur le cœur. Je vais aller la voir quand même. Alors, je fais mes 30 km et je vais voir cette personne. C'était une personne qui habitait à la campagne, dans une magnifique grande maison. Et je sonne, et je tremblais, j'avais peur. Hein. Et quand je rentre dans sa maison, la première chose qu'elle me sort, Ézéchiel sur les mauvais bergers. Elle connaissait bien sa Bible. Les mauvais bergers, ça fait longtemps que je ne viens pas à l'église, vous n'êtes jamais venu me voir, vous m'avez jamais téléphoné. Et là, j'ai tout pris, hein, je vais vous dire. Quoi. Et j'étais mal, et elle avait raison. Donc pendant une heure, elle m'a houspillé. Alors je fais une petite parenthèse. Nous étions en train d'avoir des travaux dans l'église. Et nous avions besoin, il n'y a pas de rapport avec cette histoire, mais je vous le dis avant. Nous avions besoin d'argent pour les travaux. Cette femme ne venait plus à l'église, donc point. Et il nous fallait à l'époque 70 000. Grosse somme. Et les responsables m'avaient dit, tu sais, en ce moment, nous, on est dans nos travaux personnels et tout, on n'a pas d'argent à donner, mais si ce n'est pas grave, le Seigneur va pourvoir. Je ne sais pas comment, mais il va pourvoir. Parenthèse fermée. Et quand je suis chez cette femme-là, au bout d'une heure qu'elle m'a bien houspillé, j'ai dit, bon, maintenant, je vais m'en aller. Et alors, Dieu me dit, tu vas prier avec elle maintenant. Vous savez, la priérette qu'on fait quand on s'en va. On va demander au Seigneur de vous bénir. T'en penses pas un mot, mais tu vas quand même faire ta prière. Alors, j'étais là, je dis, Seigneur, je ferme les yeux, je lui dis, on va prier ? Oui, on va prier. Alors, tout d'un coup, au moment où je ferme les yeux, je vois, j'ai l'image d'un rouleau de papier blanc, comme ça, dans mon esprit, dans mon imagination, on dirait un papier blanc. Et je reçois ce texte, ce que tu as promis de donner à Dieu, donne-le. Oh, je ne peux pas lui dire ça, Seigneur. Moi, je vais me faire engueuler pendant une heure et je ne vais certainement pas lui dire qu'elle a quelque chose à donner à Dieu. Et Dieu met la pression, vous savez comment il sait faire, hein ? Il met la pression. Et alors, je lui dis, écoutez, j'ai reçu une vision d'un rouleau de papier, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et elle me dit, moi, je sais. Oh, ouf ! Elle s'en va, elle va dans sa maison et elle revient quelques minutes après avec son rouleau. Un rouleau de papier qu'elle ouvre. C'était les plans d'une maison. Alors, je ne voyais pas le rapport. Elle me dit, je vais vous dire. Après m'avoir bien houspillé, hein. J'ai vendu, mon mari est décédé il y a 2 ans, j'ai vendu la maison qui lui appartenait, mais je n'ai jamais donné la dîme là-dessus. Et aujourd'hui, tu vas repartir avec 70 000. Oh ! C'est extraordinaire. Ah ben oui, comme tu dis, c'est fantastique pour moi. C'est important. Quand je suis rentré, j'ai raconté à l'église, j'ai dit, j'avais mon chèque là, j'ai montré, et j'ai expliqué le chemin. Ah, le chemin. Et c'est comme ça. J'avais vu juste une image simple, mais cette image simple avait derrière un répondant puissant. Je voulais vous encourager parce que des fois, quand on prie avec quelqu'un, on peut recevoir une vision. Ce n'est pas les grandes visions, vous savez. Mais même quand vous regardez Jérémie qui a eu des visions, il y a un moment donné, Dieu lui dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Ah ben, il dit, « Je vois une chaudière bouillante. » « T'as bien vu. »« Que vois-tu, Jérémie ?» Ben, « Je vois une branche d'amandier. » « Ah ben, t'as bien vu, c'est bien, Jérémie. » « Bon élève. » Mais c'est comme ça que ça marche, ce dialogue avec Dieu. Moi, ce rouleau que je voyais, j'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas qu'en faire. » Mais Dieu savait ce qu'il allait faire dans le cœur de cette femme. Et Dieu a fait son œuvre. Et je voudrais vous encourager à vraiment avoir cette attente de ce que Dieu nous parle, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, on n'a pas besoin d'être un super chrétien pour entendre Dieu nous parler dans notre pensée. On n'a pas besoin d'être un super chrétien pour recevoir une vision de Dieu. Bien sûr qu'il y a des apôtres, comme vous voyez l'apôtre Pierre, qui a reçu cette vision de la nappe. Il était en extase, c'est encore un autre contexte, hein. Mais la nappe est descendue et Dieu lui a parlé à travers une image d'une nappe avec des bestioles qui étaient impures. Tue et mange. Seigneur, j'ai jamais tué et mangé une bête impure. Tue et mange parce que Dieu regarde comme pur ce que toi tu regardes comme impur dans ta tradition juive. Et les choses ont changé et l'histoire de l'Église a démarré vraiment. Et c'est pour ça que vous et moi nous sommes là. Parce qu'un homme comme Pierre est passé au-dessus parce qu'il avait reçu la vision. Et c'est tellement important de recevoir la vision de Dieu. C'est ça être charismatique. Ce n'est pas seulement être rempli du Saint-Esprit, mais c'est aussi recevoir la parole de Dieu quand il le faut, par la personne qu'il le faut, tout en sachant que les choses sont simples. Alors, il y a des critères. Les choses qu'on va recevoir, je ne vais pas faire l'étude, hein, je n'ai pas le temps, mais il y a des critères. Bien sûr qu'il faut que la pensée prophétique, la vision soit conforme à ce que les Écritures nous enseignent. Hein, si on vous dit que Jésus est mort à Roncevaux, vous direz, là, ce n'est pas tout à fait biblique. Mais des fois, vous avez des pensées comme ça qui sont un peu spéciales. Vous avez des gens dans les églises qui prophétisent d'une manière un peu spéciale. Ainsi parle l'Éternel. Alors, quand c'est une fois, ça va. Quand c'est 20 fois, nous, on avait un gars spécialiste. Lui, tous les dimanches, au bout d'un temps, ça commençait comme ça. Mes petits agneaux. Alors, la première fois, c'est super, c'est magnifique. Le deuxième dimanche, mes petits agneaux. Le troisième dimanche, mes petits agneaux. Alors là, je suis allé le voir à la fin du culte. Je dis, écoute, tu sais, une fois, mes petits agneaux, c'est bien, mais 3 fois, je ne sais pas si Dieu s'adresse toujours à nous de la même façon. Et là, il s'est mis en colère. Mais tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis prophète de Dieu. Là, j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Vous voyez, la vie de l'esprit, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est cette écoute, c'est être enseignable, c'est de pouvoir écouter ce qu'on a à me dire et des fois à me reprendre. Mais moi, on m'a repris aussi. Parce que moi aussi, des fois, j'ai pris des risques. Et des fois, je me suis planté. Mais Dieu est bon. Et quand il nous reprend, quand il nous enseigne, c'est pour nous faire aller plus loin. Et ce matin, peut-être qu'on se dit, mais moi aussi j'ai envie de grandir, mais j'ai peur. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est un Dieu de sécurité. Dieu nous met à l'aise. Et la parole de Dieu, qu'elle soit écrite, révélée, qu'elle soit par des songes, par des visions, peu importe, cette parole, elle est une sécurité pour chacun de nous, mes amis. C'est tellement important. Si vous regardez l'histoire de Élie, dans 1 Rois 17, verset 1, voilà ce qu'il est dit. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc c'était une parole prophétique, forte. Moi j'accorde du crédit à ce qu'Élie a annoncé, c'est évident, même si Élie était de la même nature que nous, comme on dit. Mais j'accorde tout le crédit dont l'Écriture nous demande de veiller là-dessus. Et alors, à ce moment-là, Élie, il se met en route et il est victime quelque part de sa parole prophétique. Il n'y a pas d'eau. Élie, c'est un homme comme nous, donc il a soif. Donc Dieu l'envoie au torrent. Et il arrive au torrent et pendant plusieurs mois, il est dit, la Bible nous dit que les corbeaux lui ont amené à manger. Alors certains disent que les corbeaux, c'était des bédouins, d'autres disent que c'était des oiseaux. Moi, je pense que c'était des corbeaux, mais vous ferez comme vous voulez. Ce n'est pas le problème. Voilà, Dieu a parlé, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Donc super, les corbeaux arrivent, lui amènent, croient, c'est les animaux les plus chrétiens, ça, les corbeaux. Hein. Croient. Hein, ils sont chrétiens. Hein. Et alors, ils sont venus, ils ont amené à manger, et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le prophète, ce grand prophète Élie, il est devant ses limites aussi. Il a prophétisé qu'il n'y aurait plus de pluie, plus rien, et à un moment donné, le torrent vers lequel Dieu l'envoie est à sec. Et il a pu se dire, Seigneur, j'ai dû me tromper. Parce que comment je vais faire maintenant? Moi, je n'ai plus rien pour boire. Et Dieu lui parle, il dit, lève-toi, Élie, va à Sarepta et demeure là parce que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh, super, alors il se met en route, il arrive à Sarepta et il voit une femme. Alors moi, on dit toujours que c'est une vieille femme, mais c'était une femme veuve, elle avait un fils, donc je pense qu'elle ne devait pas si âgée que ça. Mais il y a une femme qui est là, et elle marche et sur son chemin, et il la voit en train de ramasser du bois, puis il lui dit, « Salut, tu pourrais me donner un petit gâteau dans un vase, enfin, un peu d'eau dans un vase, et puis un morceau de pain, etc. » Je dis, « Mais voilà ce qu'elle lui répond. « J'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voilà, je ramasse deux morceaux de bois et je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Mettez-vous à la place d'Élie. Dieu lui a dit, « J'ai ordonné à une femme de te nourrir. » Et il arrive là-bas et il trouve quoi? Une veuve qui n'a rien, qui est préparée à rien, qui attend la mort. C'est ça, Dieu, comment tu prépares les choses? C'est ça, quand tu m'annonces des paroles prophétiques extraordinaires, et puis j'arrive là, et puis il n'y a rien. Moi, je pensais quand même que les choses allaient être préparées. Un Sofitel quelque part, quelque chose qui est là vraiment pour m'encourager, mais même pas une femme là qui est là avec rien. Des fois, on est dans cette situation-là où Dieu nous dit, je vais prendre soin de toi. Et puis quand tu vois ton compte bancaire qui passe en dessous, là, bien là, il y a deux solutions. Soit tu te dis, Dieu, tu te moques de moi, ou bien je vais te faire confiance. Et là, c'est là que la foi entre en compte. Même si la vie de l'esprit nous stimule à écouter et à entendre la voix de Dieu, la foi est par-dessus tout. Et combien de fois les uns et les autres, et je sais comment l'église de Nîmes nous a aidés tout au début, alors qu'on n'avait rien. Et là, on a eu besoin d'avoir la foi, parce qu'il y avait des promesses de Dieu, mais rien ne venait. Et si vous n'aviez pas été là à l'époque pour nous aider, je ne sais pas comment on s'en serait sorti, mais vous étiez là, en tant qu'Église, je parle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement important. Si Dieu vous met à cœur d'aider un ministère, ici ou là, au loin, etc., si c'est Dieu qui vous le dit, faites-le. Des fois, on se dit, oh, bon, quand on a nos finances et tout, il y avait les sous là, il y avait deux offrandes et tout. Je pas pourquoi c'est la deuxième, alors ça ne me gêne pas, je peux dire ce que je veux ici. Mais vous comprenez? S'il y a un besoin au-delà du monde, faites-le. S'il y a un besoin à 100 km d'ici, faites-le. Écoutez la voix de Dieu. Priez. Les conseils d'église sont là pour se rassembler, pour prier. Les églises sont là aussi pour se rassembler, pour prier, pour entendre la voix de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et quand on dit ça au Seigneur, alors le Seigneur fait son travail. Et Élie va recevoir une parole de foi. Et il va dire, ma cocotte, fais ton gâteau. Il ne manquera jamais d'huile dans ta maison. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Dieu fait. Des fois, on peut être inquiet avec ses enfants, les situations familiales, la nourriture, etc. Ne t'inquiète pas. J'ai toujours pourvu et je pourvoirai encore. Même si parfois, c'est juste. Mais tu es encore vivant. Moi, je ne suis pas trop maigre, ça va. Et pourtant, on est passé par des périodes hyper difficiles, matériellement, avec nos trois gamins. Mais Dieu était là. Dieu nous a nourris. Il a envoyé les corbeaux quand il le fallait. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et quand on prie, on reçoit des réponses. J'étais un jour, on avait une librairie à l'époque, et on avait prêté nos locaux d'église à une association antillaise qui n'avait pas d'argent pour louer. Donc on avait prêté nos locaux gracieusement, à condition, il y avait deux conditions, c'est qu'elle paye le courant électrique, c'était tout. Voilà. Et la deuxième, c'était qu'elle rend les locaux propres le samedi soir. Donc le samedi soir, ils avaient leur fête, etc. Et tout allait bien, et ils payaient le courant, le chauffage, tout ça. Super. Et puis, un jour, j'étais en train de faire le ménage, ça vaut au début des églises, on fait tout. Hein. Et puis, j'étais en train de nettoyer, etc. Et tout d'un coup, un employé EDF, il vient, il me dit, comment ça se fait qu'il y ait du courant électrique chez vous? Parce qu'on a un compteur. Mais votre compteur, ça fait 3 ans qu'il est fermé. Comment ça? Ben oui, mais non, il y a l'association. Non, l'association ne paye plus depuis des années. Et on a fermé le compteur, mais vous ne pouvez pas l'avoir fermé, il est à l'intérieur. Ben oui, mais je pense que l'employé a oublié d'aller nous le signaler. Il n'était pas venu pour fermer le compteur. Donc nous, on a eu le courant gratuitement pendant 3 ans. Seulement avec EDF, ça ne se passe pas comme ça. Tiens, que tu parles, quoi. Et il m'a dit, monsieur, vous nous devez tant. La somme était énorme. Et vous savez ce que ça veut dire derrière. Et là, je suis rentré à la maison. J'étais blanc comme un linge. Ma femme a cru que j'avais vu un mort, quoi. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, mais... Et je lui raconte, il faut qu'on prie. C'est une catastrophe, ça faisait dans les 20, 25 000, c'était énorme, on n'avait rien, quoi. Il faut qu'on prie, parce que EDF nous réclame 25 000. Seigneur, alors on prie. On était autour de la petite table de cuisine, et on prie tous les deux. On dit, Seigneur, sors-nous d'affaires. Je ne savais pas comment il allait faire, comment voulez-vous que Dieu fasse, quoi? Avec EDF. S'il y a des employés EDF, soyez bénis. Ça ne s'appelle plus comme ça, d'ailleurs, maintenant. Et on prie. Et elle me dit, on peut s'arrêter de prier, Dieu a exaucé. Quoi. Oh, pff, comment ça? Oui, Dieu a réglé le problème. On va arrêter, on va manger. Alors, je l'ai cru parce que j'ai une grande confiance en elle. Alors, on a pris notre repas et je suis reparti à la librairie à 14h, tremblant. Et à 14h30, le téléphone sonne. Bonjour, c'est EDF. Oula, où les suer, quoi. Il dit, voilà, je vous appelle au sujet du litige avec l'association anti-est, une association d'antillais qui n'a pas réglé vos factures. Écoutez, on a trouvé une solution. On a demandé au ministère des Affaires étrangères de gérer le problème, de l'intégration à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, de gérer le problème. Et ils vont prendre à leur charge la facture qu'ils n'ont jamais payée. Oh, ah ouais, ouais. Là, j'ai volé. Hein. Dieu parle. Bien sûr, ça m'est arrivé qu'une fois, ça. Vous allez dire, oh, ben lui, il entend Dieu toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une fois ci, une fois ça, comme vous dans vos vies, quand on raconte comment Dieu fait. Dieu pourvoit, Dieu donne. Et c'est tellement important d'être à l'écoute du Seigneur dans les choses simples de la vie. Aussi bien pour l'éducation des enfants, combien de fois on a dû prier pour que nos enfants, un jour, on avait un billet de 50 francs, là, les gamins étaient petits, il a disparu. Vous savez quand ça arrive dans les familles, comme ça. Il était sur le buffet, et puis il disparaît. Oh. Alors vous réunissez les gosses et vous dites, qui est-ce qui a pris le billet de 50 francs? Ah, mais c'est pas moi. Et il y en a un qui a dit, vous n'avez qu'à prier. Ouais, alors ça, c'est gonflé. Vous n'avez qu'à prier. Alors on a répondu, c'est ce qu'on va faire. Et on a prié le soir en se couchant, « Seigneur, parle-nous. » On ne savait pas ce que Dieu allait faire. Et la nuit, ma femme rêve. Et elle voit le matelas d'un des trois enfants, je veux dire, pas lequel. Sous le matelas, dans son rêve, il y avait le billet de 50. Elle me dit, le matin au réveil, elle me dit, j'ai rêvé ça. Elle me dit, eh bien, on va les réunir et on va en parler. Alors, le matin, les gamins avant l'école, alors il vous a dit le Seigneur ? Oui, il nous a dit. Alors là, déjà, il change de couleur. Et on est allé dans la chambre de celui qui avait dans le rêve, et on lève le matelas et le billet était sous le matelas. Et là, ils ont dit, Dieu est un rapport de paquet. Mais pour eux, ça a été une occasion extraordinaire de se dire, Dieu est vivant, Dieu nous parle. Et nos gamins, ils savent, comme les vôtres, quand ils ont vu des parents qui ont prié pour toutes sortes de besoins, ils font la même chose. Et on entraîne les générations, on a parlé de génération en génération, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas plus à l'écoute que les autres, peut-être moins, mais Dieu désire que nous soyons à l'écoute. Et c'est pour ça que les temps d'adoration sont importants. J'ai beaucoup apprécié ce matin ce temps d'adoration, parce que c'est dans l'adoration, c'est dans le chant. Ce n'est pas chanter pour chanter. Vous le savez, un jour, je suis allé dans une convention, on m'avait invité pour prêcher, et il y avait à peu près 2 heures de louange avant le prêche. Et le pasteur m'a dit, tu sais, on ne va pas aller à la louange, on ira juste au moment du prêche. Et moi, j'étais déçu, triste. Je dis, pourquoi ? Bon, on ira un quart d'heure avant, si tu veux, quoi. Et avant le quart d'heure, quand je suis arrivé sur l'estrade pour m'asseoir avant de prêcher, on m'a amené un plateau avec du café, des biscuits et tout le bazar. C'est pas ça que je voulais, moi. Moi, je voulais être dans la louange. Parce que dans la louange, on entend Dieu nous parler. Quand on adore, notre âme s'élève vers le Seigneur et les dons se manifestent. Il peut y avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de... Je me souviens qu'un jour, on avait un de nos anciens qui reçoit une parole toute simple à travers la louange. Il était dans la louange et il dit, Dieu veut dire à quelqu'un plusieurs fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime, 3 fois. Je lui dis, pourquoi il dit 3 fois ? Il aurait pu dire 1 fois, c'est pareil. Hein. Mais à la fin du culte, une femme est venue le voir en disant, tu m'as béni ce matin de la part de Dieu. Il lui a dit, mais quoi ? Mais j'étais découragé, j'ai dit, je ne viendrai plus à l'église, sauf si Dieu me redit plusieurs fois qu'il m'aime. Et là, il avait sorti ces mots. Dieu veut te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est simple, je t'aime. Ça ne vous dit rien à vous, parce que vous n'êtes pas en situation peut-être d'avoir besoin d'entendre cela. Mais à ce moment-là, Dieu a parlé et Dieu a encouragé. J'aime beaucoup ce texte, je vais m'arrêter là-dessus. Vous savez, on chante ce chant qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, c'est comme l'onction qui descend sur la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre. Ça descend, ça coule, et ça va jusqu'à sur la robe. Souvent, quand on fait une onction d'huile pour la guérison, on met une petite gouttelette, hein, surtout pas... Attention aux cheveux de madame, hein, t'en mets pas trop, hein, toc ! En tant qu'aumônier à l'hôpital, un jour, je suis allé voir une personne qui ne croyait en rien. Son fils m'avait dit, j'aimerais bien que vous alliez visiter mon père, mais je vous préviens, il est très désagréable. Mais ça ne fait rien, bon, je vais aller. Et puis, j'avais demandé au culte qu'on prie pour cet homme, et il y a une personne qui a dit, il faut lui faire l'onction d'huile. Il était atteint d'un cancer grave, il faut lui faire l'onction d'huile. Alors, je dis, oh, là, ça en plus. Tiens, moi, je devais partir. En plus, je n'avais pas envie d'aller le visiter parce que je partais en Suisse. Donc, et il fallait que j'aille visiter cet homme, là, à l'hôpital, quoi. Et quand j'arrive dans la chambre, on m'avait demandé de revêtir les vêtements qu'il fallait. Et j'avais ma blouse et j'avais ma fiole d'huile dans ma poche de pantalon. Et j'avais la blouse par-dessus. Et puis, je me dis, mais comment je vais faire, moi ? C'était en réa. En réa, ça rentre et ça sort. Alors, comment tu veux faire l'onction d'huile avec les gens qui rentrent, qui sortent ? Tu sais pas comment faire, quoi. Et pourtant, Dieu l'avait dit. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Alors, j'ai commencé à dire, voilà, je viens de la part de votre fils. Oui, comme ça, il me parlait. Hein. Alors déjà, vous êtes rassurés. Hein. Et puis, voilà, je suis pasteur, et je lui raconte, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous ? Oui. C'est déjà bien, elle n'a pas dit non. Alors, j'ai expliqué, j'ai dit, parce que quand vous expliquez en pays catholique qu'on va faire une onction d'huile, il se dit, c'est mon extrême onction. Je vais mourir. C'est comme ça que ça marche. Alors, j'ai dit, écoutez, alors j'ai contourné, j'ai dit, la Bible nous parle de mettre de l'huile pour prier pour les malades. Est-ce que vous voulez que je le fasse ? Alors ça, il a accepté. Mais il y avait le problème, les soignants qui entraient et sortaient. Alors, j'étais là, avec ma... tout d'un coup, j'ai vu, il n'y avait personne. J'ai levé ma blouse, j'ai vu en cachette comme un voleur. J'ai pris ma fiole et tout tremblant, j'ai mis une petite goutte, j'ai tout rangé, quoi. Et j'ai prié pour cet homme, quoi. Je me suis dit, cette prière, elle est nulle, hein. Elle est nulle. Et puis cet homme, tout d'un coup, son visage s'illumine et dans le coin de sa chambre, il lève le doigt, il montre le coin de sa chambre comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Et il m'a dit, il y a Dieu. Waouh! Il n'y avait rien, mes amis. Moi, j'ai rien vu. Il a vu Dieu. Et quand il est rentré, il n'a pas été guéri. Il est décédé de sa maladie. Mais quand il est rentré chez lui, son fils m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Il est transformé. Il ne râle plus. C'était le critère. C'est pour vous dire qu'une parole écoutée, mise en pratique, peut bénir des gens. On ne l'imagine pas. Moi, je n'imaginais pas cette onction sur cet homme, tout ça. Je n'avais pas envie de le faire. Je lui ai dit, je ne suis pas un bon pasteur. Mais le Saint-Esprit m'a poussé. Il m'a dit, fais-le. Et des fois, il y a des choses que vous n'aurez pas envie de faire. Mais Dieu va vous dire, fais-le. C'est l'onction. L'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit qui coule sur chacun de nous, chaque croyant. Quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu nous demande de nous laisser remplir. Et ça, c'est à nous, c'est notre part. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi dans ton esprit. Et quand il nous baptise dans son esprit, alors l'huile produit son effet. Et vous savez, l'huile, ça laisse des traces. On avait un cochon d'Inde, quand les gosses sont petits, il faut toujours des bestioles. Hein? Alors, on avait un cochon d'Inde, c'est une affaire, ce cochon d'Inde. Et un jour, le cochon d'Inde a disparu dans la maison. Alors, on l'a cherché partout, on fouille, et tout d'un coup, on voit plein de petites traces, toutes grasses partout. Quoi. On dit, mais c'est quoi cette bête qui a couru dans... Et on a suivi les traces, et en suivant les traces, on est arrivé sous le lit d'un des enfants, et le cochon d'Inde était en dessous, tout huileux. Il était tombé dans la friteuse. Et alors, on avait... Mais vous avez, imaginez-vous, quoi. Donc, j'ai pris cette bestiole, là, qui... Ouais, j'ai pris cette bestiole, et c'est bon, il faut la nettoyer. Je vous rassure, on a changé l'eau de la friteuse. Hein. Mais il était tombé, et on avait suivi les traces, on l'avait retrouvé. Mais c'est un peu ça, le chrétien, quand il tombe dans la bassine de Dieu, quand il tombe dans l'huile de Dieu. La Bible nous dit, dans le Deutéronome 33, 24, il est dit, « Béni soit la tribu d'Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. » Le pied dans l'huile, ça laisse des traces. Et quand vous allez chez les gens, vous laissez des traces de bénédiction. Et ça, c'est tellement important. Quand vous allez voir quelqu'un qui soit malade, en bonne santé, il y a toujours un besoin. Et l'Église, c'est chacun de vous. C'est chaque individu qui va visiter une personne, voir une personne, il va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à apporter à cette personne? Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Ce n'est pas simple. Il va peut-être vous demander des fois des choses saugrenues. Je me rappelle cette dame retraitée qui était chez nous, qui avait déménagé ensuite dans le Midi, là où il y a le soleil, et elle était en train de peindre sa maison. Elle avait 70 ans passés, 80 je crois, et elle peignait son mur avec son rouleau. Et elle était en train de peindre, elle nous a raconté ça, c'est extraordinaire. Elle dit à un moment, Dieu m'a dit, laisse ton rouleau. Ouais, ben je finis mon mur. Hein. Laisse ton rouleau. Alors elle a écouté, elle a remis son rouleau, elle a rangé son rouleau, et il lui a dit, va voir un tel. Alors elle est allée voir un tel. Elle a hésité, mais elle est allée. Et cet homme avait préparé son fusil pour se suicider. Elle est arrivée au moment, pile, où il allait commettre cet acte, dans un village de l'Aude, tout petit village. Extraordinaire. Écoute Dieu. Lâche ton rouleau. Laisse tes activités pour écouter l'Esprit. Et l'Esprit parle de manière naturelle. Il parle à ton cœur, il parle à ta tête. Et à partir de ce moment-là, si tu obéis, il y a quelque chose qui va se passer. Cette même femme était dans sa banque en train de faire une opération bancaire et elle entend le banquier qui parlait avec un client et dans son village et le banquier dit « Mon fils est gravement malade » et le client lui disait « Écoute, il y a une bonne guérisseuse là, si tu vas là-bas, tu vas voir, elle fait des miracles. » quoi. Et cette femme, elle se dit « Je ne peux pas laisser, cette chrétienne, je ne peux pas laisser faire ça. » Alors elle voit le banquier à part, après elle lui dit « Je ne veux pas me mêler ce qui ne me regarde pas, mais quand même, monsieur, il ne faut pas aller voir le guérisseur. » Faut pas. Il faut demander la prière à Dieu, au Seigneur Jésus. Alors lui, il croyait en rien, il a dit, Ben faites-le, faites-le. Alors, elle est rentrée chez elle, elle a prié. Son gamin avait, le gamin de cet homme avait la tête remplie de boutons, je n'ai pas la raison, mais peu importe. Et alors, elle a prié, et le lendemain, elle va à la banque, elle dit, alors votre fils, ben, il dit, écoutez, 90% des boutons ont disparu. Oh, extraordinaire, mais il restait 10%. Elle dit, Seigneur, pourquoi il reste 10%? Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, tu diras à ce banquier de prier avec sa femme au nom de Jésus. Et quand le couple s'est mis à prier à deux, ne connaissant rien aux choses de Dieu, le gamin a été complètement guéri. Parce qu'elle avait vu dans son esprit une main qui passait dans les cheveux de cet enfant. Et c'était la main de Dieu. Elle avait vu ça. Elle a dit, il n'y a que Dieu qui peut mettre sa main. Moi, je ne peux pas aller chez le banquier pour mettre ma main sur la tête de l'enfant. Mais Dieu l'avait fait. Elle avait écouté Dieu. On chante, je ne sais pas si ça se chante encore. J'écouterai ce que dit Dieu. Il est droit pour qui il écoute. Je ne sais pas si on peut le chanter. C'est possible. Et puis, voilà, l'équipe de louange peut venir là quelques minutes. Je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que je sais qu'il y a encore la scène, tout ça. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse se mettre à la disposition de Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Et peut-être pendant ce chant simplement, je vais faire un appel simple. On ne va pas prier spécifiquement pour chacun parce que nous sommes nombreux. Mais peut-être se dire, voilà, celui qui est sous selle, même dans les responsables d'église, des fois, on a besoin d'être renouvelé tout à nouveau. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Des fois, moi, aux appels, des fois, je viens parce que j'en ai besoin. On est tous on est des humains. Et peut-être dire, j'ai besoin, Seigneur, d'être renouvelé dans ton esprit. Il faut changer l'eau du vase. Si vous laissez la même eau avec les fleurs, ça commence à sentir mauvais. Il faut changer l'eau du vase. L'eau, mettre de l'eau fraîche. On a besoin dans notre ministère, dans notre service, d'avoir l'eau fraîche de Dieu. Et cette eau fraîche, elle vient de l'Esprit de Dieu, qui vient sans condamnation. Et ce matin, on peut dire, Seigneur, moi, tu sais, dans mon ministère, dans ma vie, dans mon service, c'est dur. Je rame, je galère. Il y a la routine qui s'installe. Et le Saint-Esprit va venir, il va mettre de l'eau fraîche. Si c'est ça qu'on veut, alors voilà, on va chanter ce chant. Et puis, vous venez comme ça devant, c'est devant Dieu que vous venez, hein, c'est pas devant un homme. Hein, on est là, mais on va prier pour que la bénédiction de Dieu descende sur chacun. Pour ceux qui le désirent, maintenant, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qu'il écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen.